cours B. Donc ce cours est décomposé en 7 parties. La première partie, chaîne de mesure. La deuxième partie et la troisième partie sont des exemples d'application d'une conversion numérique analogique et analogique numérique. La quatrième partie présente ce qu'est le phénomène d'échantillonnage, c'est-à-dire la manière avec laquelle on transforme un signal temps continu en un signal temps discret. La cinquième partie est le critère de Shannon-Nyquist qui fixe la fréquence d'échantillonnage, la valeur minimale de la fréquence d'échantillonnage pour qu'avec le signal échantillonné, on puisse reconstituer le signal temps continu. La sixième partie montre comment on calcule un débit en tenant compte du fait que plusieurs signaux peuvent être transportés sur un même canal. La septième partie présente des outils pour calculer la puissance et l'énergie d'un signal. Alors, pour rappeler sur les éléments d'une chaîne de mesure, la première partie, il s'agit d'un capteur qui peut être par exemple un microphone. La deuxième partie est un conditionneur qui prend le signal électrique en sortie du capteur et qu'il met sous une forme qui puisse être acceptée par le reste de la chaîne de mesure. Le filtre anti-repliement supprime du signal les fréquences trop élevées que l'on n'entend pas à l'oreille. L'échantillonneur ne peut fonctionner qu'à la condition qu'on ait supprimé ces hautes fréquences. C'est le module qui transforme un signal à temps continu en un signal à temps discret. Le convertisseur analogique numérique convertit un signal électrique dont la tension représente une information en un code informatique dont la valeur représente une information pertinente. Le calculateur transforme le signal numérique en un autre signal numérique. Le convertisseur numérique analogique transforme ce code numérique en un signal analogique. Transparent 3. Sur un ordinateur, le convertisseur analogique numérique et l'échantillonneur est en fait une carte son. Et il y a une grosse différence entre la manière avec laquelle on peut simuler le fonctionnement, la modélisation du convertisseur analogique numérique ou de l'échantillonneur et la manière dont il est fait en pratique, étant donné les technologies qui existent actuellement. Alors, pour donner quelques ordres de grandeur, la fréquence d'échantillonnage sur une carte son est de 48 kHz et la résolution, c'est-à-dire la précision avec laquelle un signal analogique est converti en un signal numérique est plutôt de 16 bits, parfois 24 bits. En réalité, les 256 bits supportés par la carte son permettent de traiter simultanément plusieurs canaux, ce qui est par exemple le cas pour un son stéréo. Voilà. Pratiquement, souvent, les convertisseurs analogiques numériques sont des modulateurs sigma-delta. Le principe de fonctionnement consiste à utiliser une fréquence d'échantillonnage beaucoup plus élevée que celle effectivement utile et à l'inverse, d'avoir un convertisseur analogique numérique extrêmement simple. Il s'agit d'un comparateur qui est représenté ici par un triangle avec un plus et un moins en haut et en bas du triangle. Ce comparateur n'a que deux niveaux, 1 ou 0. 1 si le signal étudié est en fait un peu plus élevé que le signal de référence. Et ce signal de référence est calculé au fur et à mesure de temps en fonction des diverses valeurs prises par le comparateur. Donc c'est l'intégrateur qui permet justement de calculer, de sommer en fait les valeurs de sortie du comparateur. L'ensemble du fonctionnement est fait sous la forme d'une boucle de rétroaction. Et le résultat de cette boucle de rétroaction est mis dans un filtre moyenneur, puis un mécanisme qui permet de sous-échantillonner le signal de manière à le ramener à la fréquence d'échantillonnage effectivement utilisée dans le calculateur, en l'occurrence 48 kHz. Transparent 5, le signal source est une courbe à temps continu, représentée ici en bleu. Le signal en sortie du comparateur est en rouge. Il vaut 1 ou 0. 0, le plus souvent, quand la courbe de référence, quand la courbe en entrée du modulateur sigma delta est décroissante, et il vaut 1, plus souvent, lorsque la courbe en entrée du modulateur sigma delta vaut est plutôt croissante. L'intégrateur cumule les valeurs en sortie du comparateur et représente la courbe verte. Le sortie du modulateur sigma delta est ensuite moyenné par un filtre numérique et puis ensuite sous-échantillonné. Pour la conversion numérique analogique, la technologie utilise un peu les mêmes idées, mais à la différence de ce qui précède, une grande partie de ce convertisseur numérique analogique est en fait utilise des composants numériques. On a donc au départ un signal qui est suréchantillonné via un système numérique. On a une boucle de rétroaction avec un intégrateur qui est numérique, un comparateur qui est numérique, et en sortie, cela nous fournit un signal qui lui est analogique par le biais d'un bloqueur d'ordre 0 qui maintient la tension constante entre deux pas de temps successifs, et puis un filtre analogique passe-bas qui est là pour lisser le signal. Le haut-parleur, bon, qui est un exemple de sortie du signal analogique et qui permet de rendre audible le signal électrique, est lui aussi un dispositif qui pourrait être décrit par le traitement du signal, en particulier la façon avec laquelle il modifie l'amplitude des sons suivant que les sons soient aigus ou graves. C'est ce qu'on entend en traitement de signal par réponse fréquentielle non constante. Voilà, c'est aussi un aspect. Et le fait que le haut-parleur soit directif, tout comme pouvait l'être le microphone aussi directif, peut aussi être modélisé par le traitement du signal et dans certaines applications peut avoir de l'importance puisque suivant la position et l'endroit où on écoute le signal, on ne l'écoute pas à la même force. Alors, la quatrième partie concerne l'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est transformer un signal à temps discret, attendre un signal à temps discret. On définit la notion de période d'échantillonnage, notée TE ou T indice E. Son unité, c'est en secondes. On distingue aussi la fréquence d'échantillonnage, qui est l'inverse de la période d'échantillonnage, qui est notée FE. On a donc la formule TE égale 1 sur FE. FE est en Hertz. Donc TE désigne le pas de temps entre deux échantillons successifs. Le signal en temps, S de T, est transformé en une suite, S indice N, à travers la formule S indice N égale S de NTE. Ceci est une modélisation extrêmement simplifiée de l'échantillonnage. Il existe d'autres formules. Par exemple, on pourrait, à chaque pas de temps, faire la moyenne du signal entre les deux instants précédents. Pour montrer comment ça fonctionne, on peut prendre un exemple avec une fréquence d'échantillonnage à 2 Hz et par suite une période d'échantillonnage à 1 demi-seconde. On considère par exemple le signal en temps périodique égal à cosinus 2 πt. À travers l'échantillonnage, il devient S indice n égal cosinus 2π facteur de n sur 2 remplaçant le t. Après calcul, ceci est égal à cos πn et ceci est égal en fait à moins 1 exposant n. En effet, cos πn prend la valeur soit de 1 quand n est pair, soit de moins 1 quand n est impair. L'échantillonnage peut aussi s'écrire sous une autre forme. à travers le produit d'un pain de Dirac. C'est-à-dire que la fonction s de t est multipliée par une somme infinie de fonctions Dirac qui ont des pics en les instants régulièrement répartis, nte, où te est la période d'échantillonnage. La courbe en bas, en bleu, est le signal temps continu avant échantillonnage, et les points rouges sont le signal échantillonné, et qui donc prend des valeurs tous les demi-secondes. Transparent 9. On considère ici, dans ce graphique, une somme de sinus de la courbe bleue, et on s'interroge sur la valeur que devrait avoir la période d'échantillonnage ou la fréquence d'échantillonnage afin que le signal soit échantillonné. Donc il s'agit du signal formant point des plus rouges et qui, une fois, sont joués par des pointillés. Donc on s'interroge sur la valeur que peut prendre la période d'échantillonnage ou la fréquence d'échantillonnage pour que le signal, une fois échantillonné, ait en quelque sorte la même information que le signal échantillonnage. Alors, ce qu'on entend par avoir la même information, ça veut dire qu'à partir du signal né, on puisse reconstituer le signal de départ qui était à temps continu. La réponse qu'on peut avoir visuellement, c'est qu'il faut une fréquence d'échantillonnage assez élevée, de l'ordre de 2400 Hz, pour que ça ait un sens, ici, dans cet exemple-là. Alors, il y a un critère, critère de Shannon-Nyquist, qui donne deux formulations. La première formulation, c'est de dire que si on considère une sinusoïde de fréquence f, alors la fréquence d'échantillonnage minimale est égale à et doit être strictement supérieure à deux fois la fréquence de cette sinusoïde. Ce qui nous amène dans l'exemple précédent de 1100 Hz à 2200 Hz. À strictement plus que 2200 Hz. Le deuxième point de vue consiste à dire que quand on a un signal sinusoïdal qui est de période grand T, il faut au minimum deux échantillons par période de temps. Donc au minimum, et en fait, strictement plus que deux échantillons. Pourquoi il faut strictement plus que deux échantillons ? En réalité, on s'aperçoit que dans la courbe ici, lorsque les points, les échantillons sont tous alignés autour de zéro, on a échantillonné une sinusoïde qui était à 1 Hz avec une fréquence d'échantillonnage à 2 Hz et pourtant le signal échantillonné est nul et par conséquent il est impossible avec un signal nul de reconstituer la sinusoïde de départ. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une inégalité stricte dans le critère de Nyquist. Alors en fait, dans la pratique, il y a de multiples problèmes et il faut, pour éviter ces problèmes-là, prendre une fréquence d'échantillonnage qui est non seulement strictement supérieure, mais même supérieure avec une certaine marge pour éviter les problèmes. Quand on transmet un signal, on peut arriver à transmettre plusieurs signaux sur un même canal. Le multiplexage temporel consiste à allouer à chaque signal une plage de temps réduite sur laquelle un grand nombre d'informations sont transportées. Pour arriver à transporter l'ensemble du signal sur une petite plage de temps inférieure à la durée du signal, il faut en fait transformer les données. Donc c'est toute cette transformation que l'on appelle multiplexage temporel. Et le débit binaire d'un canal représente la quantité d'informations qu'on peut déplacer. Il est donc égal à NBV, qui est le nombre de voies, qui fait référence à ces différentes plages de temps réservées à différents signaux. Il est égal à petite n, qui est le nombre de bits utilisés lors de la quantification de signal en un signal numérique. On appelle aussi grand N égale 2 puissance n la résolution. Et puis, la fréquence d'échantillonnage, FE. Donc, le débit binaire est le produit de NBV par N et par FE. L'unité, c'est des bits par seconde ou des BPS. C'est une notion différente de la notion de capacité du canal qui, elle, tient compte des perturbations et de la qualité ou de l'éventuelle déformation du signal transmis. On peut donner quelques exemples de fréquences d'échantillonnage. 8 kHz pour le téléphone, 44,1 kHz pour un CD, 48 kHz pour un DVD ou pour une carte son. On dispose d'un certain nombre de formules pour décrire la puissance et l'énergie d'un signal. Ces définitions ne tiennent pas exactement compte de l'application donnée pour laquelle et du lien avec ce que pourrait être physiquement la puissance et l'énergie du signal. Dans le cas où le signal est un signal électrique, définir la puissance instantanée par le carré du signal a effectivement un sens puisque c'est proportionnel au carré de la tension qui elle-même est effectivement proportionnelle au carré de la puissance disponible. Cependant, il existe aussi de nombreuses applications où une telle interprétation n'aurait aucun sens. La définition est donc générale et elle est représentative de la notion de traitement de signal. Pour calculer cette puissance, il est important de distinguer si le signal est temps continu ou temps discret, périodique ou non périodique. Si on considère en haut à droite, donc le signal est considéré comme temps continu non périodique, TC pour temps continu et NP pour non périodique, c'est a priori l'énergie qui est pertinente. Cette énergie, c'est donc l'intégrale de la puissance instantanée au cours du temps de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc c'est de là que vient la formule intégrale de moins l'infini à plus l'infini du carré de S de T. On peut malgré tout définir la puissance comme étant une formule moyenne entre les instants moins T sur 2 et T sur 2 du carré du signal. Et on divise par grand T, puisque la plage de temps, c'est entre moins T sur 2 et T sur 2. Et puisque le signal a a priori un comportement éventuellement différent au cours du temps, eh bien, il faut prendre cette définition au sens de la limite, c'est-à-dire de faire tendre T vers l'infini pour calculer la puissance. En haut à gauche, on considère un signal qui est temps continu, donc TC pour temps continu, et périodique. Dans ce cas-là, on suppose qu'il est périodique de période T et on calcule la puissance du signal comme une moyenne de la puissance instantanée sur cette période. C'est donc la formule 1 sur T intégrale de 0 à T de S carré de T dt. En bas à droite, on considère un signal qui est temps discret non périodique. Donc son puissance instantanée, c'est S indice N au carré. Et assez logiquement, l'énergie, c'est la somme de ces puissances instantanées, donc somme sur n de Sn carré, n étant n'importe quel entier négatif et positif. On définit aussi une puissance pour des signaux temps discrets non périodiques comme étant la moyenne du carré de signal, c'est-à-dire la somme de moins grand n jusqu'à plus grand n de Sn carré, et comme il y a 2n plus 1 indice, il faut diviser par 2n plus 1 et on prend ensuite la limite de cette quantité quand grand n tend vers l'infini. Pour un signal temps discret périodique de période grand n, la puissance est définie comme 1 sur n somme de n égale 0 jusqu'à n moins 1 de Sn carré. La principale propriété qu'on peut dire d'une façon générale, c'est que lorsque l'énergie est une quantité pertinente pour décrire le signal, alors la puissance n'est pas une quantité pertinente. Et lorsque la puissance est une quantité pertinente, eh bien c'est l'énergie qui n'est plus une quantité pertinente. Pratiquement, ce qu'on peut dire, c'est que si l'énergie est nulle, alors le signal est nul. Bon, de même, si la puissance est nulle, le signal est nul. Si l'énergie est fini, c'est-à-dire n'est pas une quantité infinie, alors la puissance est nulle. Et si au contraire la puissance n'est pas nulle, elle est donc strictement positive, alors c'est en fait l'énergie qui est infinie. Bon. Comme deuxième propriété, on peut dire que si le signal en temps est retardé, alors la puissance et l'énergie restent identiques. Si le signal en temps est amplifié, alors la puissance et l'énergie sont amplifiées. En fait, si le signal est amplifié par un facteur 2, alors la puissance et l'énergie sont en fait amplifiées par le carré. Ils sont amplifiés par 4. Si l'échelle des temps est modifiée, la puissance est une quantité moyenne et donc elle reste identique. En revanche, l'énergie est a priori modifiée parce qu'il s'agit d'une quantité intégrale. Voilà. On considère une autre propriété de l'énergie et de la puissance, qui est son additivité à des instants différents. Concrètement, on imagine un signal qui, sur différentes plages de temps, est égal à différents signaux indicés par n, alpha 1, alpha 2, jusqu'à alpha grand n. Chacun de ces signaux, alpha 1 de t, alpha 2, jusqu'à alpha grand n, ont chacun une énergie. Eh bien, l'énergie de l'ensemble du signal sera égale à l'énergie de chacun de ces signaux. La condition pour que cette propriété soit vraie, c'est que les différentes plages de temps ne se chevauchent pas. On a aussi la même sommation donc de la puissance à des fréquences différentes. Donc on considère ici un signal qui est égal à une composante continue, notée bêta 0, et puis il y a différentes composantes sinusoïdales, notées bêta n, qui correspondent à des fréquences qui sont chacune à des fréquences bien précises, f indice n. La puissance du signal est égale à la somme de la puissance de la composante continue et de la puissance de chacune des composantes sinusoïdales. La condition pour que ce principe soit vrai est que justement les fréquences soient toutes différentes les unes des autres.